Mais pour l'instant, sur Inter, il est 10h06. Vous êtes en compagnie de Laurence Garcia pour Cache Cache.
1, 2, 3, Cache Cache.
Albert, Anton, Anna.
Et vous, c'est quoi votre petit nom ?
Petit pourquoi ? Pierre, Karl ?
Olivier, mais je suis un peu gros.
On vous spolie, on prend en otage vos cerveaux. Révoltez-vous, citoyens, contre le grand capital médiatico-politique. Prenez les armes katoviques, prenez la caméra, investissez les plateaux télé pour vous réapproprier cet instrument qui est le vôtre. Du consommateur à l'acteur média, oui, une autre télé est possible, financée par un public volontaire. Nos pubs, nos logos, un mass-média qui reprendrait le concept de la lutte des classes. C'est l'esprit, en tout cas on en parlera, d'un film collectif de légitime défense, de désentubage catholique, en salle le 21 septembre prochain. Et pour en parler ce matin, deux activistes anti-pensée unique du PAF, Olivier Hazan, réalisateur à Zaléa TV, et le cinéaste Pierre Karl. Et puis à 11h10, dernier épisode de La Mauvaise Chrétienne et le curé Loubard, confessionnal décalé avec Guy Gilbert, le prêtre éducateur au parler cash, pour évoquer nos petits problèmes existentiels au 12e degré.
Cash, cash.
Bonjour Olivier Hazan.
Bonjour.
Bonjour Pierre Karl.
Bonjour.
Film collectif donc, des entubages cathodiques en salle le 21 septembre prochain. Vous le présentez comme un acte de résistance, de légitime défense?
J'ai le choix, alors c'est la deuxième, c'est plutôt légitime défense.
Produit par Zaléa TV.
Ouais, c'est un film, qui peut pas se faire autrement. Donc c'est une autre production comme ça d'une télé associative, qui est une télé libre, qui s'appelle Zaléa. Et donc en fait, c'est des réalisateurs qui ont fait ça. Après, il faut savoir que c'est, vous voyez, il y a que des, c'est des choses qu'on peut pas faire ailleurs. Quoi. C'est ça l'essentiel de ce qu'on a à dire déjà.
Et c'est une compilation de différents petits courts métrages, ça.
Bah, c'est des petits outils en fait. On peut appeler ça du court métrage. C'est des petits outils qui sont assemblés dans ce film et qui sont, qui attaquent quand même plein pot sur la télé, quoi. Qui expliquent un peu comment ça marche.
Qui décryptent les arnaques visibles ou complètement subliminales du petit écran.
Bon, il n'y a pas besoin d'être subliminal, c'est tellement clair que ça se voit tout de suite.
Et parmi les désentubeurs catholiques, Pierre Karl, pas vu, pas pris, pas le choix non plus?
Pas le choix, c'est-à-dire?
Pas le choix de ne pas participer à cette aventure collective?
Oui, enfin, j'y suis pas associé directement en tant que réalisateur, mais j'ai contribué d'un peu loin à cette histoire. Mais quand il dit que c'est du désentubage de la télé, il faudrait pas croire qu'il y a que la télé qui pratique la désinformation. Je pense que la radio, France Inter y compris, en fait partie, la presse écrite, les journaux comme Le Monde, Libération et compagnie, on a bien vu lors du référendum ce qui s'est passé.
Tous coupables?
Responsables. J'ai pas dit coupables. Responsables, oui, sûrement.
D'autres médias, d'autres télés possibles, on en parle ce matin, c'est le programme. De cache-cache pour cette dernière. Cocosuma sur Inter, des entubages cathodiques, film collectif produit par Zaléa TV, avec du déjà vu et de l'inédit, une compile de cours qui en disent long, je sais, elle est facile. Pas vu, pas pris, enfin pris, le petit dernier de Pierre Karl, Chirac le menteur chez PPDA, prise d'otage sur et par TF1, signal d'alarme sur notamment la frénésie médiatique concernait le fameux faux fait divers, la jeune mythomane du RERD. Il y a également, comme autre cours, bal et masque au bal des oui-oui, clin d'œil bien sûr au traitement médiatique du référendum, donc des titres qui en disent long, avec pour invité ce matin Pierre Karl et Olivier Hazan de Zaléa TV. Donc ça désentube et ça désingue et ça mitraille à tout va, non?
Alors d'abord oui, je voulais recadrer le fait que...
Recadrer.
Le fait que le film des entubages est un des films du programme qui sort le 21, qui s'appelle Tir nourri sur la télé, comme TNT, qui comprend effectivement Pas vu, pas pris, enfin pris, et ce troisième film des entubages, qui lui-même est un assemblage de plusieurs films. Mais donc, au-delà de ça, donc il y a effectivement trois films qui sortent, et ça c'est assez nouveau, et c'est en plus ce qui est assez... nouveau, c'est que c'est distribué par une coopérative qui est Cohérence, qui est donc un distributeur complètement alternatif. On a assez rarement vu ça.
Pierre Karl,
quand vous citez les films avec votre voix, on a l'impression que ce sont des films très connus, enfin ou des films qui circulent normalement et tout. Il faudrait
quand
même.
Qu'est-ce qu'elle a ma voix?
Non, mais quand vous les citez, on a l'impression que ce sont des films qui circulent facilement. En réalité, ce sont des films qui
tous ne seront pas diffusés à la télévision, ne l'ont pas été d'ailleurs pour certains depuis 1998. Je sais pas s'il faut parler censuré, mais en tout cas inédits à la télévision, y compris sur le câble. Et ce sont des films que l'on ne verra qu'en salle de cinéma et qui disons portent une critique sur la télévision, mais de l'extérieur du système, ce qui n'est pas facile.
De l'extérieur du système. Et justement, la question a été posée aussi, entrer ou ne pas entrer dans la TNT, puisque Zaléa TV, comme d'autres chaînes locales, Alter ou associatives, avaient fait la demande, avaient déposé leur candidature auprès du CSA pour rentrer dans cette ère de la TNT. Donc quelque part, est-ce que c'est aussi un film de règlement de compte et de légitime défense, en disant, vous n'avez pas voulu de nous, voilà ce qu'on va dire, et ce qu'on sort, et ce qu'on crie et en salle.
Non, alors ça, d'abord, les films désentubage, c'est une pratique chez nous, c'est une pratique quotidienne quand on fait de la télé libre.
C'est quoi la pratique du désentubage?
C'est du décryptage qui va un peu plus loin que la bonne intention qu'on peut voir chez Arrêt sur Image, par exemple. Pierre pourra en parler
mieux.
Ah,
chez votre ami, Arrêt sur Image.
Mais ça va un peu plus loin que ça, quoi. Disons qu'il y a pas de, on n'est pas bridé, donc c'est assez libre et donc on peut se permettre de vraiment, pour de vrai, décrypter la télévision. Mais ça, c'est une pratique qu'on voit dans les télé libres et à Zaléa depuis des années. Parce que Zaléa n'a pas essayé, Zaléa a été plusieurs fois autorisée en temporaire, en herzien, notamment sur la Tour Eiffel. Et puis à chaque fois, elle est interrompue, arrêtée, interdite par le CSA, la haute autorité, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Selon quels arguments ?
Et toujours sur des arguments qui sont détournés, qui sont des faux arguments. On peut parler du dernier si vous voulez, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on sait qu'il faut qu'il y ait des télés alternatives, enfin qu'ils soient gérées de façon complètement externe au système actuel, qui est celui de la publicité essentiellement. Et donc cette chaîne qui est Zaléa candidate régulièrement à tout ce qui est possible pour exister. Et ça fait des années qu'on dit, mais attendez, vous affolez pas, quand il y aura la télévision numérique terrestre, ça fait 10 ans, vous pourrez enfin faire de la télé libre, de la télé associative. Ils aiment pas trop employer le mot télé libre. Et donc effectivement, ça fait des années qu'on se bagarre, et là on a naturellement candidaté à la TNT avec un dossier très costaud. C'est-à-dire qu'il n'était pas juste un bout de papier, qui était un dossier qui répondait aux critères du CSA, donc viabilité, tout ça, des dossiers financiers. Et au final, le CSA rejette encore la candidature de Zaléa, comme il avait déjà fait une première fois.
Est-ce que vous effrayez le pouvoir, vous effrayez une...
Mais c'est une erreur qu'il rejette la candidature. En fait, vous avez une chance. La chance, c'est que vous soyez interdit de télévision aujourd'hui. Parce que si on acceptait de vous donner une fréquence, sans les moyens financiers pour faire des programmes intéressants, vous feriez les mêmes conneries que les autres.
Dès lors qu'on rentre dans le système,
je pense que le problème, il est économique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir les moyens de faire de la télévision artisanale et pas de la série industrielle. Il faut avoir les moyens de prendre du recul, du temps, de ne pas gober à l'air du temps. Et ça, c'est un problème de moyens économiques. Si la télévision est ce qu'elle est aujourd'hui, enfin moi, c'est mon point de vue, c'est parce que les gens travaillent dans des conditions mauvaises. Et quand vous êtes dans la précarité, quand vous n'avez pas le temps de faire un reportage, quand vous n'avez pas le temps d'aller à la Courneuve, comme l'explique Jean-Claude Cluzel, qui dit qu'il faut y aller.
Ah ça, j'en étais sûr que. Mais vous savez.
Quand vous êtes dans ces conditions-là, effectivement, vous faites du journalisme de révérence.
On évite les attaques personnelles, etc. Sinon, dans ces cas-là, on va directement dans le bureau, on décroche son téléphone et on prend rendez-vous, d'accord?
Pourquoi? Dans mes films, il y a des attaques personnelles. Comme
oui, tout à fait.
Dominem,
mais là,
on peut citer les responsables, on peut citer les gens qui disent ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Alors, dans ces désentubages, les héros, anti-héros sont toujours les mêmes, journalistes et politiques. Justement, le but de résister à l'intérieur ou hors système, Zaléa, le but du jeu, c'est que ce soit vu aussi.
Oui, mais la chance, par exemple, des films qui figurent dans le programme des entubages cathodiques, ce sont des films qui ont été faits sur plusieurs années ou sur plusieurs mois, donc il y a eu un temps de fabrication relativement important qui permet de faire les choses correctement. Tandis que quand vous êtes dans le quotidien, quand vous êtes dans l'urgence, forcément, vous relayez le discours ambiant, vous tendez un micro à Sarkozy et vous le laissez raconter des conneries. Voilà ce que font la plupart des journalistes, qu'ils le veuillent ou pas. C'est-à-dire les conditions économiques de fabrication de l'information aujourd'hui sont telles que vous ne pouvez que relayer le discours dominant.
Donc c'est l'économie qui pollue tout, moralité, restons pauvres pour rester indépendants et être
non,
plus...
Justement, non, justement, je n'ai pas dit restons pauvres, j'ai dit qu'il faudrait que des chaînes comme Zaléa aient des moyens très importants pour faire des programmes de qualité.
Alors justement, à Zaléa TV, Olivier Azan, vous proposez... TNT est fichu, enfin en tout cas là maintenant.
Bon, enfin, on fait un recours en Conseil d'État.
Ah quand même. Preuve à la pluie, texte à la pluie.
Disons que c'est très simple, c'est-à-dire que je veux revenir au-delà des conditions de ce que raconte Pierre là. l'histoire des médias et de la télé, je vais pas refaire toute l'histoire, mais non, dès le départ, on est basé sur des lois qui sont en gros issues de la Déclaration des droits de l'homme, qui après la loi de 86, bon, sur l'audiovisuel, etc. Et celle qui est modifiée en 2000 stipule bien que le CSA est là pour garantir le pluralisme et donc l'émergence notamment des télés associatives, etc. Donc là, il y a le CSA en tant qu'autorité de régulation est censé mettre en place et aider à l'émergence des télés associatives. Comme à un moment donné, ils ont.
Enfin bon, c'est une autre histoire.
On pourra parler de la radio, c'est une autre histoire. Mais il y a dans la loi une volonté qui a été exprimée par des élus. Donc il y a une volonté qui existe, qui est passée dans la loi. Et puis il y a une réalité, c'est la réalité du marché qui domine l'audiovisuel et la télé, comme la radio, comme beaucoup de secteurs audiovisuels, comme la presse écrite. Mais on se retrouve avec finalement une connivence et une contradiction, c'est-à-dire que les gens du CSA. Par ailleurs, sont des professionnels. Donc, on retrouve par exemple Christian Dutoit, qui est stage au CSA, qui a mis en place e-télévision et qui se retrouve à autoriser e-télévision en tant que stage pour exister sur la TNT. Donc là, il y a déjà premier problème. Mais au-delà de ça, on retrouve tous les grands groupes qui sont à la fois, c'est-à-dire on retrouve Vivendi et Bouygues essentiellement et Lagardère. Mais pour le cas de Vivendi et Bouygues, ce sont aussi des opérateurs, distributeurs. Donc, ils ont effectivement le satellite et ce sont les mêmes qui après mettent en place donc la distribution des chaînes dont ils sont pour la plupart propriétaires. Donc on se retrouve dans ce truc-là. Et en collaboration parfaite avec l'autorité, avec le CSA, on nous explique que le CSA nous dit vous n'allez pas pouvoir diffuser parce que, vous comprenez, vous serez certainement pas viable parce que les opérateurs accepteront pas vos conditions. Donc en fait, les opérateurs, c'est quand même Bouygues et Vivendi. Donc, et c'est pas un hasard si on retrouve dans toutes les nouvelles chaînes qui arrivent sur la TNT, l'essentiel sont des chaînes. Il y a 5 chaînes encore qui arrivent de Canal+, Lagardère avec France Télévisions, service public, font 2 chaînes pour enfants, une chaîne pour enfants. Lagardère avait déjà une chaîne pour enfants, Canal+. Et l'argument des sages, c'est de dire, je vous le dis vite fait, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de raison que seuls les enfants de riches aient droit à une telle chaîne. Donc il y a une chaîne gratuite sur faite par Lagardère Marchand d'Armes, et tout de suite derrière, il faut, pour compenser, pour l'équilibre, pour la pluralité, pour le pluralisme, il faut une chaîne faite par le service public et le marchand d'armes pour les enfants qui,
Olivier Azan, qui ont de l'argent. Si par exemple Zaléa TV ou d'autres chaînes locales auraient pu trouver leur place sur la TNT, vous, au niveau du fonctionnement et financier notamment, comment vous avez proposé par exemple une autre alternative qui aurait été le bouquet payant, les téléspectateurs payeurs?
Alors nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur toutes ces questions-là. Hein. Zaléa, c'est une équipe de bénévoles, donc effectivement.
On peut vous voir où et quand d'ailleurs vous émettez.
Actuellement, on n'émet pas parce qu'on est interdit par le CSA, mais bon, vous avez le site zalea.org sur lequel il y a beaucoup d'informations. Mais actuellement, on n'est pas en diffusion. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sort ce film en salle aussi, qui permettra de voir des trucs qu'on ne peut pas voir ailleurs.
Légitime défense, voilà. De résistance. Voilà.
Pour répondre à votre question, la question financière, nous, on est soutenu par les gens directement. C'est comme ça qu'on tient actuellement. C'est pour ça que la structure tient, qu'elle paie son loyer, etc., qu'elle arrive à financer le quotidien. Pour les grosses questions qui sont les vrais coûts de la télévision, effectivement, nous, on n'a pas les moyens de se payer la diffusion tout seul. C'est-à-dire aller voir un satellite, aller voir Vivendi et Canal+, et leur dire, on vous balance, je sais pas combien de millions d'euros par an pour diffuser, on peut pas.
Donc, moyen financier.
Là, pour la TNT, on voulait pas abandonner, c'était une action qu'on voulait pas abandonner comme ça sur ce seul prétexte du financement. Donc, on voulait pas ne pas être présent à la TNT, en disant, non, on n'est pas viable. C'est une réalité, peut-être d'un côté, mais de l'autre côté, on avait trouvé une solution qui était de faire porter le coût de diffusion par les téléspectateurs abonnés, donc qui a une hauteur très faible, hein, d'un abonnement décroissant, de décroissance soutenable, qui démarrait à 30 centimes et qui finissait en 5e ou 6e année à 16 centimes, et puis qui finalement aurait fini par disparaître si le fonds de soutien avait été créé, et qui fasse donc porter par les téléspectateurs pour pas que le CSA nous argumente
en
disant « vous êtes pas viable ». Et donc on a trouvé une solution. Et cette solution est rejetée aujourd'hui par le CSA.
Pierre-Carl, vous par exemple, vous y croyez au public volontaire qui participerait pour une télé qui lui ressemble enfin, est-ce que vous y croyez ça vraiment?
Je n'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, moi, je ne travaille plus à la télévision depuis maintenant plusieurs années, d'où j'ai été un peu exclu.
Enfin, vous avez été au cœur du système, hein, vous aussi.
J'ai fait des films qui racontent cela, puisque j'ai travaillé à la télévision pendant une dizaine d'années. Mais moi, je travaille maintenant uniquement pour des films qui sortent en salle de cinéma, et ce sont des spectateurs qui payent leur entrée, et qui permettent de financer à chaque fois le film suivant. Donc, je me pose pas la même question de ce point de vue-là que Zaléa. Je pense que c'est une chance, finalement, que Zaléa soit interdit. Ça veut dire que, j'espère que, pour de bonnes raisons, cette chaîne dérange le pouvoir.
comme pour vous, c'est peut-être une chance finalement d'être résistant maintenant de l'extérieur et plus au cœur du système comme vous l'avez été pendant des années.
Sauf que c'est pas une volonté d'être à l'extérieur. Enfin, d'abord, on n'est pas complètement à l'extérieur puisqu'en salle de cinéma, il y a tous les documentaristes ou tous les réalisateurs n'ont pas la chance d'avoir des films qui sortent en salle de cinéma et de travailler de cette manière. Donc c'est déjà un privilège. Mais si les films étaient diffusés à la télévision, on s'y opposerait pas. Simplement, pour l'instant, les deux films qu'on a réalisés sur les médias, que j'ai réalisés sur les médias, enfin pris, pas vu, pas pris, sont interdits de diffusion. Et ça ne changera pas dans la mesure où Patrick de Carolis, qui est président de France Télévisions et qui est l'un des personnages de Pas vu, pas pris, a aujourd'hui encore plus de pouvoir qu'au moment du tournage.
Ça, des entubes à tout va, c'est pas comme ça que vous reviendrez à la télé, hein, Pierre. Mais enfin, a priori, vous n'avez pas envie.
Non, parce qu'on travaille beaucoup mieux de manière artisanale, à l'extérieur, en prenant son temps. Oui, effectivement, on est moins vu, mais est-ce qu'il vaut mieux pas être moins vu, mais être en salle de cinéma avec des débats, avec des spectateurs avec qui vous discutez, que d'être vu de manière à 3h du matin ou à 10h, parce qu'il y a aussi cette censure qui consiste à passer des choses intéressantes, mais très tard,
ou à des heures qui ne sont pas,
ou à des heures qui ne sont pas, ou à des heures qui ne sont pas cruciales. Ben, vous savez très bien que, par exemple, quand vous êtes à 8h du matin sur France Inter ou à 7h du soir, non mais sur n'importe quelle radio,
c'est
beaucoup
pas.
Plus stratégique et les choses qui se disent là sont beaucoup plus entendues que si elles sont dites à 10h du matin ou à 3h d'après-midi.
Ce qui ne vous empêche pas de venir et on vous a quand même invité.
Ben, oui, bien sûr.
À tout de suite, Père Karl. Karine Claire, je suis à toi sur France Inter. Pierre Karl, Olivier Azan, vous avez la télé à la maison, par exemple, vous, Pierre Karl?
Je l'ai eu longtemps, pour des raisons professionnelles, pour regarder un peu ce qui s'y faisait, oui.
Et là, plus du tout, du tout?
Non, mais bon...
Les enfants n'ont pas télé
Non, mais...
Et quand ils vous demandent, papa, j'en ai marre, je vais faire comme tout le monde, je vais regarder...
Vous savez, on peut vivre... Vous êtes bizarre, hein, c'est une question bizarre.
Ça, il y a longtemps que vous n'avez pas dit ça.
On peut vivre sans la télévision, non, mais c'est évident. On peut vivre sans lire les journaux, on peut lire sans écouter la radio, sans écouter France Inter, on peut vivre... Des gens qui vivent
Arrêtez
comme ça.
France Inter
Non, mais ou RTL ou Europe 1, il y a des gens qui vivent comme ça.
Vous avez des télévisions chez vous?
Je suis obligé de répondre à cette question.
Quelle question? Bah oui.
Parce que vous savez que maintenant, la redevance est inclue dans la feuille d'impôt. Moi, j'ai rendu ma télévision en 99 à Catherine Trottmann, qui était ministre de la Culture. Parce que pour protester, justement, parce que j'avais lu le cahier des charges du service public, et c'était bien expliqué dans le cahier des charges que la télévision était libre, elle donnait accès aux citoyens, c'est marqué dans le cahier des charges. Donc quand j'ai eu la télé, j'ai été surpris que ça répondait pas au cahier des charges. Et effectivement, j'ai gueulé un peu à la télé, puis ça a jamais changé, donc j'ai fini par rendre ma télé à Catherine Trottmann, qui maintenant... Enfin, depuis le temps, on n'avait plus ministre, la pauvre, mais doit payer la redevance à ma place. Donc, puisqu'elle a été...
Faut dire aux gens, ne payez pas la redevance. Vous n'avez pas de pluralisme à la télévision. Vous avez toujours le même son de cloche qui est matraqué par toutes les chaînes. On l'a vu lors du référendum pour le traité constitutionnel européen. Ne payez pas la redevance. Ou alors, payez que la part correspondant à la chaîne unique que vous voyez. Parce que
alors,
c'est une chaîne unique.
Si ça désentube, s'il y a un véritable travail de réflexion critique et de décryptage dans ce film collectif, forcément, on va vous dire, bon, d'accord, facile. Qu'est-ce que vous proposer? Est-ce qu'une télé idéale existe? Imaginons, voilà, monsieur Pierre Karl, demain, vous êtes PDG d'une chaîne, vous, Olivier Azan, vous êtes rédacteur en chef de cette chaîne, quel serait le contenu des programmes? Quelle serait la bonne définition d'un bon journalisme qui serait effectivement sans concession? Quel type de programme?
Mais ces chaînes, elles existent. Ce sont les télés associatives, les télés libres, il y en a quelques-unes, elles n'ont pas toutes la même vision des choses, heureusement.
Donc le problème, c'est
les Aléas en est une, par exemple, et il n'y a pas de rédacteur en chef à Aléas. Pour répondre à votre question, je ne serais pas rédacteur en chef de Aléas. Il y a des gens qui proposent des choses qui remontent. Et par exemple, une idée comme ça, le mode de fonctionnement d'une telle chaîne, quand on est en diffusion, parce qu'on l'a été souvent, on a prouvé qu'on pouvait diffuser pendant des mois et des mois, le mode de choix, par exemple, d'un programme, c'est de dire, bon, mais il suffit qu'il y ait une personne de l'équipe là qui vienne, hein, l'équipe, ça peut être quelqu'un qui vient, qui décide que ce programme, il peut être porté à l'écran pour qu'il soit porté. C'est la règle de la minorité dominante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus qui se crée autour d'un programme, il suffit qu'il y ait une personne qui veuille le faire et ça passe.
Mais complètement...
Alors après, si le programme, il déplaît à d'autres, libre à d'autres de faire un programme de désentubage de ce programme.
D'accord.
On pratique l'auto-désentubage en permanence dans ces chaînes-là.
Alors là-dessus, moi j'ai une autre position. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être... Enfin, moi, si vous m'avez posé la question, je souhaite surtout pas être rédacteur en chef d'une chaîne de télévision. Parce que travailler dans les conditions, si on modifie pas les conditions de travail, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, l'urgence, le fait qu'il faut travailler dans des conditions précaires, rapidement, etc., on n'a pas le temps de faire des choses intéressantes.
Donc,
la différence avec le documentaire ou le cinéma, c'est que là, on est dans de l'artisanat, on a le temps de prendre son temps, de revenir sur ses a priori, sur ses préjugés, sur les stéréotypes, tandis qu'à la télévision, vous n'avez pas le temps. Donc je veux pas, moi, travailler à la télévision. Non, merci.
Bah, ça tombe bien, parce qu'a priori, ils vous proposent plus. Ouais, hein.
En plus, ça tombe bien.
Donc, quelque part, vous avez...
Imaginons, je parle de science-fiction.
Donc vous avez finalement la même vision politico-économique de Serge Halimi sur le fait que bah voilà les effets néfastes d'un néolibéralisme sur la télé qui est un épiphénomène comme tant d'autres quoi. Donc il y a pas de raison taper sur la télé, d'accord, mais on peut taper sur tout dans ces cas-là.
Oui, enfin, j'ai pas bien compris si c'était ça la position de Serge Halimi, telle que vous l'avez décrite en tout cas.
Bah, elle est un petit peu foute.
Mais je pense qu'on n'a pas besoin de la télévision, comme on n'a pas besoin des grands médias, en tout cas ceux qui sont contrôlés par les grands groupes industriels ou par l'État.
Donc du coup, vous inscrivez plutôt dans la logique, par exemple, du collectif des sans-cravates, hein, qui font partie des entubeurs, où eux, voilà, c'est plutôt éteindre la télé.
Supprimer. Moi, je pense qu'il faut supprimer des chaînes. Je pense qu'il y a trop de chaînes. Si vous avez TF1, France 2 et France 3 qui font le même journal télévisé, et c'est le cas, bah, il faut en supprimer deux. Et n'en garder qu'un. Comme ça, vous avez effectivement le point de vue du patronat à travers TF1, France 2 ou France 3. Mais c'est pas la peine d'avoir trois chaînes pour qu'elles disent la même chose et pour qu'elles donnent la même vision du monde.
Mais ça, c'est vous qui décidez ça.
Non, c'est pas moi. Je pense qu'on est nombreux à penser cela aujourd'hui.
Et comment vous expliquez alors le paradoxe du public aussi? Parce qu'on peut se mettre de l'autre côté du public.
Le public, il est dépendant. On peut droguer les gens. C'est facile de les rendre accros à quelque chose. Et après, effectivement, si vous leur proposez toujours la même chose à 19h, à 19h30, ils vont vous demander toujours du big deal ou je sais quoi. Ça, c'est facile. Non, je pense qu'il faut tout simplement leur proposer autre chose et ça passe par la suppression de certaines des chaînes.
Mais vous qui avez été au cœur du système pendant X années, est-ce que par exemple c'est une réflexion qui aurait pu exister en interne dans des rédactions, dans des programmes ou dans des émissions? Vous aviez l'impression d'être une sorte d'OVNI à l'époque où vous collaboriez à différentes émissions?
Ben, les gens qui sont un peu marginaux, qui ont des discours un peu non orthodoxes, ne sont pas en général engagés à la télévision, encore moins aujourd'hui qu'hier. Donc moi je suis passé un peu entre les gouttes à un moment donné, et puis j'ai pas fait que des choses bien à la télévision quand j'y étais. Mais donc je sais pas si on est nombreux ou pas, je pense pas, hein. Je pense que les gens sont écartés avant, que la sélection s'opère avant, et que les gens qui sont à la télévision aujourd'hui sont extrêmement dociles et font exactement ce que l'on attend d'eux.
Mmh.
Vous n'avez pas l'air convaincu.
Olivier, je vous passe la parole, Olivier Hazan.
Moi, je pense pas. Bon, on dit la même chose, mais il dit pas la même chose parce que Pierre
c'est
aime bien.
C'est pas mal ça.
Mais sur l'idée de, évidemment, on dit nous à la télé sur Zaléa, quand on fait de la télé, on explique sans arrêt qu'il faut éteindre sa télé. Donc c'est un paradoxe, certes. Ouais. Mais les sans-cravates viennent expliquer comment on éteint une télé avec un TV bigone. Tout ça, c'est ça fait partie du travail qu'on fait. Et bon, voilà. Après, sur l'histoire de est-ce qu'il faut plus de télé ou pas, nous, ce qu'on dit, c'est pas qu'il en faut plus dans l'absolu. On dit qu'il faut qu'il y ait d'un espace pour des télés libres et des télés...
Donc ça, ce message-là est bien compris.
Après, si vous voulez, ce qui est assez hallucinant dans l'univers de l'audiovisuel maintenant, du PAF, là, comme on dit, c'est qu'il y a on a l'impression qu'il y a des dizaines et des centaines de chaînes de télévision, et qu'avant, il n'y en avait que trois. Mais en réalité, c'est les mêmes chaînes.
C'est des clones.
La grille de programme a juste été décliné, c'est les mêmes groupes, donc ça a été décliné sur plusieurs canaux. Ce qui fait que au lieu, et c'est ça le paradoxe, c'est que on nous fait croire qu'il y a plus de pluralisme et plus d'accès finalement aux médias pour les gens qui veulent s'exprimer, et en réalité c'est faux, c'est exactement l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une télévision, même si vous aviez l'argent, ça veut dire que il faut quand même être présent partout. Vous devez être présent sur la TNT, sur le satellite, sur... Donc si vous voulez, cette espèce d'illusion du pluralisme, ces bouquets qui nous vendent là comme ça, c'est vraiment une illusion totale. Il y a de moins en moins de chaînes.
Madeleine Pérouse sur France Inter. On parle de l'autre média, de l'alter-média. Est-ce que finalement, il faudrait qu'il s'inscrive un petit peu aussi dans la lutte des classes, un concept qui a été un petit peu oublié, et pas uniquement par les journalistes, parce que c'est un petit peu aussi facile de donner tous les mauvais rôles aux journalistes, mais aux partis politiques. Alors, est-ce que si l'autre télé possible, dans laquelle on pourrait un petit peu découvrir d'autres informations, d'autres programmes, c'est tout simplement le média de la lutte des classes?
La vision du monde qu'ont les journalistes aujourd'hui, les politiques, la plupart des politiques...
Mais je parle pas que des journalistes, hein.
Oui, non, mais ou le responsable d'information, ou de je ne sais quoi, ils ont complètement évacué la question de la lutte des classes. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout se regarde à travers le prisme immigrés, non immigrés, immigrés nationaux. Et là, on en voit que le Front National a gagné, même s'il n'a pas gagné électoralement. Quand vous voyez des reportages qui se déroulent en banlieue, on vous raconte pas que, d'abord, avant tout, ce sont des pauvres qui se tapent sur la gueule, et que c'est pas des immigrés ou des nationaux. C'est pas ça qui importe, c'est pas cette division-là qui importe. Mais bon, je crois qu'il faudrait beaucoup de temps et d'antenne pour expliquer cela, pour avoir une chance d'être entendu.
C'est pas mal, hein.
Comment ?
Vous êtes un alter cinéaste, vous, par exemple ?
Alter cinéaste, je crois que c'est une formule facile. Non, moi, je sais même pas si je suis un cinéaste. Je suis un bricoleur.
Bricoleur,
voleur d'images, bidouilleur, réalisateur de... Oui,
voleur d'images, bidouilleur, la fin justifie les moyens aussi. Anarchiste, alors, peut-être ?
Mais c'est pas, enfin, je sais pas, non, je sais pas, enfin, c'est pas moi de me qualifier.
Oui, puis alors, voilà. Sinon, je vais vous rentrer dans des cas, je vais vous formater, je vais être comme
non,
les
mais
autres.
Non, mais c'est marrant ce truc qu'il y a avec Pierre, toujours sur la fin, justifie les moyens. Comme si la méthode.
Ah mince, excusez-moi de poser des questions, tout le monde pose.
Non, mais pardon. Mais comme si le fait de, finalement, de faire des choses librement et d'enquêter sur les gens, quand on s'attaque à la question des médias, la méthode devient ennuyeuse, alors que tous les médias en permanence emploient des méthodes qui sont pas toujours très glorieuses.
Ça, on est d'accord. Mais vous n'avez pas tendance, vous, à mythifier un petit peu trop les médias, quoi?
Non, je crois que leur influence est réelle. C'est l'air qu'on respire, les médias. La consommation de télévision aujourd'hui la consommation de télévision aujourd'hui n'a jamais été aussi importante dans l'histoire de la télévision qu'aujourd'hui. C'est
3h30 par jour.
Mais parce que les gens
ils veulent la drogue aussi, bien sûr. Bah oui, ils veulent être drogués.
Donc
oui.
On est encore dans l'opium du peuple.
Oui, c'est malheureux, mais ces formules-là, enfin en tout cas, même si ça peut paraître un peu facile d'utiliser ces formules, elles opèrent, elles sont valables.
Disons que les gens ont peut-être oublié que ça pouvait s'arrêter, la télévision. C'est pour ça que...
Remarquez, ça sert aussi en bruit sonore, vous savez, comme ça on a l'impression d'être moins seul. Bon, honnêtement...
Mais c'est pas une influence directe, c'est pas vous allez faire ceci. C'est on ne va vous parler que de cela et bah, vous allez oublier le monde social, par exemple. On va faire de la diversion avec des faits divers. Hein. Donc comme ça, on oublie de parler des choses qui fâchent. On va, le jour, en 95, lorsqu'il y a eu ce grand mouvement, une des plus grandes manifestations qu'il y a eu en France, les journaux télévisés ouvraient avec la libération de deux pilotes serbes. Donc voilà, c'est ça, c'est pas... On va vous dire ce qu'il faut faire, on va vous manipuler de manière directe. C'est plutôt quelque chose de beaucoup plus fin. C'est voilà, on va pas tout vous dire sur ce qui se passe dans cette société, ou en tout cas, on va mettre en avant certaines choses pour en occulter d'autres.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce type de critique passerait mieux auprès du public si vous ne vous érigiez pas non plus toujours en une sorte de tribunal de celui qui va voilà, qui va donner des leçons aux journalistes aussi?
Je crois que
parce que c'est ce qu'on peut reprocher aussi, un ton un petit peu...
Raconter ce qui se passe, c'est pas donner des leçons. Expliquer dans les deux films que j'ai réalisés, dans Pas vu, pas pris, enfin pris, qu'il y a des formes de censure à l'œuvre aujourd'hui à la télévision, que l'on occulte les relations entre les politiques et les patrons de médias comme Étienne Moujotte et François Léotard sont connivants dans Pas vu, pas pris, ou que Daniel Schneiderman, le présentateur d'Arrêt sur image, ne dit pas ce qui se passe avant une émission avec Jean-Marie Messier à l'époque PDG de Vivendi. Je pense que c'est intéressant de savoir comment ça se passe, de voir que derrière le théâtre des apparences, il y a des intérêts économiques, il y a des gens qui ont des intérêts, oui, pour dominer, pour...
Et vous pensez pas que le public n'est pas dupe et...
Non, s'il a pas les moyens de s'en rendre compte, comment vous voulez qu'il ne soit pas dupe?
Donc en passant par le cinéma, par les salles, ça peut passer petit à petit.
Il n'y a pas que le cinéma, moi c'est effectivement les salles de cinéma qui m'ont hébergé pour ces films. Mais il y a peut-être d'autres moyens. Bah, des antibâches cathodiques circulera en DVD, en je ne sais quoi, en pirate, sur Internet.
Zaléa TV, c'est l'alter télévision aussi. Vous vous réclamez du mouvement attaque, du mouvement alter.
Non, on se réclame de rien. Nous, c'est
quoi? J'ai posé encore une question bête.
Mais non, désolé. Non, mais on a l'impression qu'il faut mettre des catégories toujours. C'est vrai, hein, c'est pas de votre faute, hein, mais c'est comme ça.
Il faut mettre des mots, quoi.
C'est qu'il y a toujours, là, avec le vocabulaire qu'on utilise, on pourrait avoir l'impression qu'on fait des tribunaux populaires staliniens contre les médias. En réalité, les films sont très drôles. Hein. C'est quasiment une comédie. Hein. Les trois films, c'est trois comédies. C'est vraiment très drôle. Mais c'est pas parce que c'est drôle que c'est insignifiant, anecdotique.
Il peut y avoir des tribunaux populaires drôles, hein. pas forcément staliniens, mais drôles.
Où les têtes ne tombent pas, quoi. Ou pas trop de sang.
Où les gens se ridiculisent tellement qu'après, il faut qu'ils aillent se cacher.
Vous savez, les gens...
C'est déjà
nous, quand nos films sont terminés, c'est vrai que les gens continuent à faire de la télé. Malheureusement, Daniel Schneiderman est toujours là, quoi.
Mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui...
Mais non, mais c'est un exemple, parce que c'est le film en fin prix. Mais,
ouais, c'est un exemple.
Mais c'est vrai qu'à la fin, on en sait peut-être un peu plus et on peut les regarder d'une autre façon. Ou peut-être finalement arrêter de les regarder. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, en tout cas. Pourquoi on ne ferait pas des films là-dessus, après tout?
Donc, du coup, au niveau des salles de cinéma, par exemple, il n'y a pas de censure? Il n'y a pas eu de difficultés monstrueuses.
La censure, elle est
dans le fait que le cinéma aujourd'hui, notamment les salles de cinéma arrêt essai, ne sont pas, il n'y a pas un million de spectateurs qui va aller voir un documentaire, alors c'est extrêmement rare.
Pour Michael Moore.
Oui, ou pour Être et avoir de Philibert. Mais ce sont des exceptions. Donc en fait, les audiences ne sont pas les mêmes. Donc le cinéma, en tout cas, pour les documentaires, est moins dangereux que la télévision. Pour le système.
Mais il faut dire quand même les efforts qu'il faut déployer pour sortir des films comme ça. Hein. Il faut pas croire, hein. C'est pas Gaumont et UGC qui les distribue. C'est un distributeur alternatif qui tient par la force des choses. En fait, tout ça c'est très précaire quand même. Hein. On sort là TNT, bon, c'est une sortie qui est quand même assez assez dure à porter. Et malgré tout, on s'aperçoit qu'effectivement, dès les premières projections, ça marche, les gens ont envie de le voir, et donc les exploitants, ils sont très sensibles à ça, simplement. Si les films plaisaient pas dès le départ, ils passeraient pas. Donc on est quand même dans une histoire comme ça, il faut que ça plaise. Mais il faut pas, c'est quand même assez exceptionnel de sortir des films dans ces conditions.
Il n'y a qu'en France qu'on peut aujourd'hui sortir encore des documentaires dissidents, disons, au cinéma. Hein, si vous allez en Espagne, en Italie, il n'y a plus de réseau de salles à réessayer, de salles indépendantes. Donc là, c'est l'exception française qu'il faut défendre absolument, enfin, me semble-t-il. Enfin, je prêche pour ma paroisse.
Donc à la fois, une autre télé est possible pour vous, Olivier, et une autre télé pour vous, Pierre-Carl.
Non, moi, j'ai pas dit qu'une autre télé était possible. Je n'ai pas dit ça, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
C'est des slogans.
Voilà, c'est du pauvre formatage. Et pour une fois, je prends la parole avant que Pierre-Carl reprenne son refrain. Oups! William Scheller sur France Inter. Pierre-Carl, Olivier Azan, nos invités ce matin. Je sais pas pourquoi, mais je vais pas vous demander si vous êtes des bons chrétiens, bons croyants. Je trouve que vous avez des têtes de mécréants.
Non, moi je suis un bon chrétien.
Oh, sérieux?
Pierre-Carl? Non, je plaisante.
Je l'ai vu à la messe de dimanche dernier. Jean-Paul. Ah non, il est mort là.
Oh là là, c'est drôle. Je sais que vous êtes très dans l'anti-idéologie.
Mécréant, on peut dire, voilà.
Mécréant, ça vous va bien. Alors tant pis pour vous, c'est notre formatage à nous. C'est tous les vendredis, c'est comme ça que ça se passe. En plus, c'est le dernier rendez-vous. C'est un confessionnal décalé avec Guy Gilbert, prêtre éducateur, qui n'est pas forcément non plus d'ailleurs dans le format type. C'est, voilà, le dernier épisode de notre confessionnal de l'été. On se retrouve après, messieurs. Ne critiquez pas trop. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je vous demanderai aucun commentaire ni à l'un ni à l'autre, Pierre-Carl et Olivier Azan.
Je ne dirais pas qu'il a l'air extrêmement conventionnel et conformiste, ce curé, mais bon.
Bah, ça peut être, oui. Bah, c'est un gentil curé, quoi.
Oui.
Il est gentil curé, hein.
On les entend suffisamment, peut-être qu'il ne faut pas leur donner plus d'antenne que ça.
Bah non, regardez, il y a même vous. Alors, pour terminer cette émission, je demande à chaque invité de venir avec un petit objet ou un petit document, voilà, qui vous accompagne, qui veut raconter une petite histoire. Olivier, vous êtes venu avec quoi ce matin?
On avait sur le porte-clés, là, c'est vrai, je fais le bruit des clés.
Merci, sympa pour l'image.
Non, parce qu'on ne peut pas le montrer. C'est un TV Bigone, c'est une télécommande universelle qui sert à arrêter toutes les télés.
Alors, c'est ce qu'utilise le collectif des sans-cravates.
Voilà, exactement.
Et ils passent dans les FNAC comme ça, ils arrivent, ils sèment la panique, ils éteignent toutes les télés.
Oui, d'ailleurs, on voit dans le film des entubages, il y a aussi les permanences des Wiwistes qui ont été attaqués le jour du référendum. Et donc, ça sert à éteindre les télés, c'est la seule unique fonction, et ça marche très bien, et ça rappelle aux gens qu'on peut l'arrêter, quoi, ce truc-là. Voilà.
On peut l'éteindre aussi. Pierre-Carl, vous êtes venu avec quoi?
En ce moment, je me sers d'un objet assez épatant, qui est un...
Là, j'ai peur.
Non, c'est un petit disque dur qui permet d'aller voler des images dans les chaînes de télévision de manière très discrète.
C'est pas vrai.
Parce qu'il est très fin et il fait la taille d'un paquet de cigarettes.
Ouais.
Et donc c'est avec ça qu'on peut par exemple aller récupérer des documents à l'aide de complices. Ces documents dont la télévision ne veut pas nous montrer ou qu'elle garde précieusement pour elle. Voilà, nous on va les voler avec ça. Vous voyez, ça marche très bien. Enfin, non, vous voyez pas, mais ça marche très bien.
Vous êtes venu avec des complices là, Inter, parce que vous virez direct, hein, je vous le dis.
Non, mais c'est plutôt des images de télévision. Donc,
voilà, la radio sera pour la prochaine cible. Merci à tous les deux, dont je rappelle que Les Entubages Cathodiques, produits par Zaléa TV, sort le 21 septembre, le même jour que l'Almanach Critique des Médias, aux éditions Les Arènes. C'est un ouvrage collectif qui a zaléa.org, et puis qu'il y a aussi tire-nourri sur la télé.org.
Oui, c'est le titre du site qui héberge donc tout ça.
Merci à tous les deux d'être venus pour cette dernière. Merci à toute l'équipe de Cache-Cache, Huillettiste et Aoussien, les travailleurs de l'été et de l'année, parce qu'ils le valent bien et le méritent bien. Il y avait les réalisatrices en chef Eliane Gérard et Marie-Annick Rimbaud. Merci pour leur niaque et leur soutien dans le Tout est possible, parce qu'il n'y a pas qu'à la radio, il n'y a pas qu'à la télé, en radio aussi. Merci à notre petite soldate de l'été, Clémentine Genévrier et Fanny Leroy-Fennec, qui sont en plus des surdiplômés en psy. Merci à mon inspecteur brillant, Malcolm Hammer, les reporters Antoine, Flo Plattari et Amandine Casadamon. Mon nouveau fiancé, même si vous l'aimez pas, Pierre-Carl, mais je m'en fiche, Guy Gilbert, un curé effectivement pas si bas. C'est Joubaka qui a signé la programmation musicale. Ce matin, la technique, c'était Fabrice Desmaz. Excellent week-end à l'écoute de France Inter. Ce sont les derniers programmes de l'été. Lundi, à cette même place, à cette même heure, vous retrouverez Mathieu Vidard pour sa nouvelle émission Café Bazar. À bientôt.